comme ça, je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Un jeudi sur deux.
De 19h à 20h. Une heure de féminisme.
Sur Radio Campus Grenoble, 90.8.
Et bonjour.
Salut.
Vous êtes bien dans Dégenré.
Et donc là, on est deux en studio technique animation. Et c'est une émission, aujourd'hui on se retrouve pour la fin d'un cycle. Alors non, ce n'est pas encore la fin de notre cycle d'émissions de la saison, ni même le troisième et dernier volet de l'émission autour du cyclique vélo. Non, non, on se retrouve autour de la fin du cycle menstruel, qui peut bien sûr s'arrêter quand on prend de la testo par exemple, mais aujourd'hui on va s'attarder sur la fin de ce cycle par la ménopause, qui peut être précoce, périménopause, chimique, naturelle... Communément, cette dernière, ça veut dire des irrégularités, puis disparition évolutive, puis définitive des règles. Ce n'est pourtant pas juste un arrêt des règles, parce qu'on ne revient pas à un état qui serait celui d'avant ou initial. C'est plutôt une phase de transformation, de changements hormonaux sur un temps plus ou moins long, car les ovaires sécrètent moins d'hormones œstrogènes et progestatives. Alors cette phase, elle peut durer plusieurs années, et elle peut être très différente d'une personne à une autre. Du coup, non seulement au niveau des effets, mais aussi de leur temporalité et de leurs intensités, c'est-à-dire de légère à intense sévère en passant par modérée. Et bah, de quoi qu'on cause, bah, bouffée de chaleur, fatigue, irritabilité, troubles du sommeil, douleurs articulaires, dépression, angoisse, brouillard mental, troubles digestifs, problèmes osseux, incontinence, problèmes de peau, désorientation, trous de mémoire, etc. font partie des multiples symptômes qui peuvent apparaître à la ménopause. Alors pourquoi on a eu envie de faire cette émission ? Eh bien, pour plein de raisons. Parce que la ménopause, elle est autant invisibilisée que pathologisée, et parce qu'elle est autant donc minimisée que sursignifiée négativement et péjorativement, parce que, encore une fois, elle est autant répandue que mal connue, et aussi parce qu'elle est absente des formations médicales et médico-sociales et psychologiques, et du coup, bah, il perdure un manque d'informations, de sensibilisation et de prise en compte. Du coup, il y a un retard énorme de prise en compte et une culture de non-prise en compte encore bien vivace. Et pourtant, c'est en même temps devenu bien présente dans le domaine pharmaceutique ou autre, comme chez Naturalia par exemple, et sa pub dans tous les métros parisiens il y a quelques mois pour mettre en lumière la ménopause et briser le tabou, je cite, et te proposer du coup le comprimé de sauge, la pilule ménopause bouffée de chaleur, la gélule vitamine D3, la gelée intime, le vitamine B8, le pollen associé au magnésium, le complexe B6, B5, D, oméga 3, et j'en passe, trois pages de catalogue. Mais en tout cas, effectivement, pour ce qui est de l'industrie pharmaceutique, le traitement, c'est pour compléter les manques d'hormones, du coup c'est le traitement hormonal de substitution. Bah là, on n'a pas fait une enquête approfondie sur l'hormonothérapie, mais effectivement, ce qu'on peut dire quand même, c'est que bah, dans industrie pharmaceutique et industrie, et effectivement, je pense qu'à un moment donné, ils ont bien vu que c'était un jackpot, et parce que ça concerne vraiment beaucoup, beaucoup de personnes, du coup il y a un but lucratif, mais aussi quand même aussi, puisque ce sont des hormones sexuelles synthétiques, il y a un truc de, comment dire, comme si ça performait une certaine féminité, et puis parce que ce traitement va annuler certaines des manifestations corporelles qui sont jugées déviantes de la norme de féminité acceptée et valorisée dans nos sociétés patriarcales. Du coup, bon, ça, évidemment, on n'est pas trop pour, mais sinon, effectivement, chaque personne fait bien... Quand le seul traitement hormonal peut soulager, évidemment que tu le prends, et en tout cas, il y a quand même eu des études cliniques qui ont montré, par exemple, dans les années 2000, il y avait une personne ménopausée sur deux qui prenait un traitement hormonal. Là, elles sont moins de 10% aujourd'hui, parce que effectivement, il y a quand même eu des études qui montrent que ça augmente les risques de cancer du sein, que ça aggrave certaines tumeurs malignes, etc. Du coup, l'idée, c'est plutôt de les prescrire pour 5 ans, mais comme si on arrête, les symptômes reviennent, et parfois plus fort, bah, on comprend bien que des fois, Tu, voilà, c'est comme ça. Du coup, en tout cas, chacun, chacune fait bien comme elle peut. Évidemment qu'ici, on n'est pas là pour dire faut faire ci, il faut faire ça ou faire une injonction. Voilà, des personnes prennent des traitements hormonaux, d'autres n'en prennent pas, d'autres se tournent vers des méthodes naturelles, d'autres ne prennent rien et on fait bien comme on peut. Et voilà, et on a aussi eu envie de parler ménopause encore pour évoquer ben, qu'est-ce que ça peut changer quand on n'est pas hétéra, par exemple. Et donc, pas une personne sur le marché, encore une fois, mais la patriarcale, où c'est synonyme ben, de perdre sa jeunesse, féminité, son pouvoir de séduction, mais toujours par rapport au regard masculin. Aussi, on s'est demandé qu'est-ce que ça évoquait quand on n'a jamais voulu avoir d'enfant. Et donc, on n'est pas dans cette perte d'identité, être femme égale se reproduire, avoir un enfant. Et où, quand on est, par exemple, malade chronique ou handi, et qu'on ne va pas découvrir que maintenant la vie avec des douleurs, des fatigues, des effets impactants au quotidien. Du coup, voilà, on a eu envie de parler de ménopause encore, parce que le vieillissement et ménopause sont quand même longtemps restés des impensés du féminisme. Parce que, effectivement, comme toute autre chose, finalement, c'est une construction sociale. Et que la construction sociale occidentale dans laquelle on est, ben, elle porte un regard méprisant sur le corps vieillissant. Et oh, teasing, spoiler, bien sûr, davantage encore que sur celui des personnes assignées femmes, puisqu'on est dans une société patriarcale et du coup, bah, ça, cette phase-là, ça dépeint. Du coup, ça ferait toujours de manière négative. T'es fatiguée, fatigante, t'es irritable, tu te plains, t'es rabat-joie. Et du coup, bah, dans le bouquin d'une sociologue, Cécile Charlap, La fabrique de la ménopause, elle écrit qu'il existe pourtant des sociétés dans lesquelles la ménopause est plutôt considérée positivement. Par exemple, justement, comme le commencement d'une sexualité enfin libérée de la fertilité. Et dans d'autres, bah, il s'agit même d'un non-événement, à tel point qu'il n'existe même pas de mot pour le désigner. Et du coup, bah, en tout cas, juste pour la petite info dans la langue française, toujours selon Cécile Charlap, c'est au 19e siècle qu'a émergé le terme ménopause. Du coup, du préfixe grec méno, menstru, et du suffixe pause, cessation. Du coup, bah, cette étape de la vie se retrouve encore et toujours décrite comme une déficience. Elle n'est pas pensée comme une transformation, mais comme une involution, une régression, qui s'accompagne d'un champ lexical péjoratif. Du coup, pour toutes ces raisons, on avait envie de parler de ménopause. Et enfin, et c'est finalement en plus notre point de départ, aussi parce que de plus en plus de personnes de nos entourages, y compris nous-mêmes pour certains, certaines, sommes concernées désormais. Et donc, bah voilà, on a voulu donner la parole à des camarades concernés et on va vous partager plusieurs interviews. C'est d'ailleurs une des interviews qu'on lance maintenant.
Eh ben, je m'appelle Cécé, 49 ans, et je suis Gwyn, et féministe, et anarchiste. Et plein d'autres trucs, mais pour se présenter, c'est pas mal déjà, non ?
Et ménopausée ?
Et je suis ménopausée, officiellement, depuis quelques mois. Mon médecin généraliste me l'a annoncé. J'allais pas le voir pour ça, ça fait déjà un petit paquet d'années que j'étais en périménopause, que j'avais des règles genre une fois par an. Peut-être que depuis quelque chose comme 3-4 ans, j'avais 4-5 ans par là. J'avais des signes, des symptômes de périménopause chiante. Et du coup, j'avais hâte d'être en ménopause. Comme si périménopause, c'était un peu un truc entre deux et que j'avais hâte que ça finisse et que ce soit un truc stable. C'était l'image que j'avais. Du coup, quand j'ai dit ça à mon médecin généraliste, qui a l'air pas trop idiot, il m'a dit « Oh, mais si c'est ça dont vous avez besoin, moi, je vous le dis, vous êtes en ménopause. » J'ai dit « Bingo !» Je l'aime bien, lui. Mais c'est tout con, mais je crois que ça m'a permis d'investir différemment. Alors, les trucs chiants, ça a été surtout les changements d'humeur brutaux, les moments de dep, de down, que je m'expliquais pas, que j'arrivais pas à faire du lien avec des choses qui se passaient. Du coup, dans la tête, ça fait un truc... ça fait pas sens de pourquoi ça va pas, parce que je trouvais pas de raison dans le réel qui me raccrochait. Ça me laissait dans un état émotionnel très désagréable, quoi. Et beaucoup de bouffées de chaleur que j'ai encore. Voilà les trucs chiants, principalement, quoi. Moi, ce qui m'a surtout saoulé, c'est fucking changement d'humeur sans explication autre que la périménopause, du coup un truc hormonal, du coup un truc pas maîtrisé, du coup un truc sur lequel j'ai mis du temps à reprendre un peu de pouvoir, quoi. Déjà, comprendre ce qui se passait, c'était vachement... ça mettait du sens là où j'en trouvais pas, quoi. Donc c'était quelque chose comme soulageant. Et ensuite, faire des choses pour que ce soit moins chiant, c'était aussi être active. du coup, reprendre un peu du pouvoir, du coup, me sentir mieux avec les trucs chiants, me dire aussi que c'est un passage, maintenant c'est chiant, ça veut pas dire que ça va être chiant toute la vie. Des trucs comme ça, ça m'a aidé. Et la médecine chinoise, ouais, essentiellement la médecine chinoise, notamment pour réguler la température. Et aussi, il n'y a pas que des trucs chiants. Dans mon cas, par exemple, j'avais de l'endométriose. Et du coup, à la périménopause, ça s'est arrêté toutes les douleurs d'endométriose. Et ça, c'était un grand mieux dans ma vie quotidienne. Et l'autre truc que j'ai bien aimé, qui est symbolique, mais qui est quand même, je trouve, pas négligeable, c'est de plus être fertile. Parce que moi, c'est pas une fonction qui m'intéressait. Du coup, j'étais contente de plus être fertile, même si j'ai pas une sexualité à risque de grossesse. Symboliquement, dans ma tête, c'était important de me dire « Ah, ça y est, ce truc dont j'ai jamais voulu, cette fonction dont j'ai jamais voulu, bah, elle est plus là. Nickel. » Dans les trucs chiants aussi, je rajouterais fatigue venue de nulle part. Ouais, grosse fatigue et troubles du sommeil un peu aussi.
Et ça, c'est pareil, tu trouves des manières de faire avec au quotidien pour que ça soit moins chiant ou faut juste attendre que ça passe?
Je trouve là qu'on peut se mettre dans des postures mentales qui font que c'est moins chiant si on a l'espace mental de le faire, bien sûr. Mais par exemple, pour moi, le truc de se dire que c'est momentané, ça va s'améliorer, c'est pas la fatalité, ça m'a aidé. Le truc de comprendre ce qui se passait, que c'était le processus de périménopause et tout, ça m'a aidé à me poser aussi dans ma tête. C'est plus « oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ?» C'est ça qui m'arrive. Ok, bon, bah c'est une étape. Il y a des trucs chiants. Il n'y a pas que des trucs chiants. D'autres générations entières l'ont surmonté avant moi. Moi aussi, je peux le surmonter. Un truc comme ça. Et aussi être moins en colère. Quand je comprenais pas ce qui m'arrivait, bah, j'étais en colère de c'est quoi qui se passe, ou je sais pas, un peu la, ouais, un peu rageuse quoi. Et que ça enlève pas totalement la colère de savoir qu'est-ce qui se passe, mais ça permet de mieux la gérer, je dirais. Et de se dire, de toute façon, plus je m'énerve, plus j'ai chaud, plus je m'énerve. c'est pas rentable, quoi. Donc, voilà. Mieux vaut, quand on a encore la ressource de le faire, tenter de s'apaiser, quoi. Mais ça peut être des trucs cons, ça peut être la musique, ça peut être écouter les oiseaux, si t'aimes bien écouter les oiseaux qui chantent dehors. Enfin, c'est pas des trucs cons, je veux dire, ça peut être des petites choses, mais qui prennent des places importantes dans le confort de la vie quotidienne. Ça peut être une petite huile essentielle qui fait du bien, ça peut être un petit pétard, ça peut être, selon qui on est, qu'est-ce qu'on aime bien, une petite tisane qui détend avant d'aller dormir.
Et toi, est-ce que toi t'y as pensé, ou est-ce que le médecin, pas si nul, il a proposé des traitements?
Il a évoqué, mais il m'a pas proposé. Aussi parce que les traitements, je pense qu'il aurait pu me proposer, c'est des hormones. Je suis une grosse fumeuse, j'ai pas le profil qui va bien, profil de santé et tout, qui va bien avec la prise d'hormones. Et en plus, c'est pas vers là où j'ai envie d'aller. Du coup, ouais, non, il a pas été plus loin que évoqué. Mais les quelques médecins généralistes que j'ai vus dans le passé, c'était la première proposition, quoi.
Et à part avec ces médecins, toi, t'en parles avec d'autres gens? T'en parles à... Est-ce que c'est un sujet ou pas du tout, la ménopause?
C'est devenu un sujet, je pense lié à l'âge et au fait que je sois en lien avec des personnes de mon âge. Mais c'est aussi un sujet pour lequel je sais vers qui je peux me tourner ou pas. C'est-à-dire que je vais pas aller vers ma jeune camarade de 30 ans... Je sais que ça va pas être une interlocutrice privilégiée, même si on peut se capter quand même, mais c'est sûr que j'ai cherché du contact avec d'autres dans la même situation que moi au moment de la périménopause, et que c'était précieux de pouvoir se déballer ces trucs chiants, d'en rigoler, de pouvoir prendre un peu de recul là-dessus. Et j'étais contente que très proche de moi, il y avait des personnes qui étaient déjà aussi dans le processus de périménopause ou en ménopause, quoi. Ça m'a fait du bien qu'on me dise « mais moi aussi sur des trucs, quoi. Le sentiment de pas être seul, enfin, c'est un peu basique comme truc, mais tant qu'on l'a pas, bah, c'est difficile. Au niveau de la société, je dirais quand même que c'est pas tout à fait sorti du tabou. Bon, bah moi, j'ai la chance de ne pas être une meuf, etc. Parce que je trouve, sur cette étape-là, elles prennent cher. Du coup, n'étant pas à cet endroit-là, je pense que je subis moins le schéma classique de... parce que, je sais pas, j'ai déjà entendu plein de fois des meufs, etc., qui disent qu'on sort du marché de la sexualité, du marché de la séduction, et quand ça prend une place, quand c'est une place importante dans la vie et qu'on a plus ça, j'imagine bien que c'est difficile. Mais je trouve que quand on est gouine ou qu'on décale d'une manière ou d'une autre avec la normalité de... les normes qu'on met sur les femmes hétéros, d'un coup il y a beaucoup plus de possibles, quoi. On en parle différemment. Et peut-être aussi, c'était aidant pour moi d'être surtout entourée de personnes queer et que du coup ce truc-là, on me le renvoyait pas, quoi. Comme j'évolue peu dans le monde normal, tous ces trucs chiants de normes et de schémas préétablis, je les ai pas beaucoup subis, je dois dire, ouais. J'ai de la chance pour ça, quoi.
Est-ce à dire que dans le milieu queer féministe, ménopause ou d'autres sujets liés à... on va dire la vieillesse ou l'avancée dans l'âge ou quoi, c'est mieux préparé, c'est mieux... Enfin, je sais pas comment dire.
Ouais, je comprends ta question. Je dirais pas mieux, mais je dirais moins pire quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que s'il y a tabou, il est moins fort, que c'est quand même plus possible de mettre le sujet sur la table, mais il est pas... Pour l'instant, il est en bout de table, prêt à casser la gueule, il est pas vraiment sur la table, quoi, je dirais. Je vois rarement, j'ai pas de souvenirs comme ça, dans des rencontres féministes ou des événements féministes ou des événements queer, des discussions ou des événements, des trucs autour de la ménopause. Je dis pas que ça existe pas. C'est pas un sujet fancy, quoi. Je trouve que quand même on est mieux équipés chez les féministes, les queers, parce qu'on a déjà décalé, nous. On a déjà décalé dans notre vie et on a ressenti tout ce que ça peut être bénéfique de décaler un moment avec cette société. Du coup, décaler à nouveau, on connaît la mécanique, je trouve qu'on est plus outillé, quoi. Donc dans ce sens-là, je dirais que milieu queer féministe, c'est quand même mieux que... et comme d'habitude. Ou au pire, moins pire que chez les normaux.
Et puis je sais pas si c'est... enfin que peut-être ça peine aussi à être plus au centre de la table plutôt que sur le bord en train de se casser la gueule, peut-être. Enfin, être en équilibre aussi, parce que finalement, entre les fatigues, les burn-out, les je sais pas quoi, c'est pas... les personnes les plus nombreuses ne sont pas les personnes les plus âgées. Je sais pas comment le dire, dans notre milieu.
On n'a pas énorme de représentants, représentantes de plus de 50, quoi. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Et peut-être aussi qu'il faut gérer d'autres trucs dans la vie quotidienne et qu'il y a moins de temps pour se rencontrer et tout. Peut-être, là, je suis un peu négative. Je vais le laisser en termes de questions, peut-être. Mais c'est sûr que moi, j'ai l'impression que passé 50 ans, on voit beaucoup moins de représentants, représentantes de plus de 50 ans dans la communauté, mais peut-être je suis pas dans les bons cercles. Parce qu'ils sont où, ces gens? Ils sont bien quelque part, quoi. Et on en croise à l'occasion, on sait qu'il y en a qui existent quelque part, on en connaît quelques-uns, quelques-unes. C'est peut-être plus ce qui nous manque, c'est peut-être plus d'en faire un sujet politique. Dans le sens, comme on disait tout à l'heure, de le mettre vraiment sur la table. Ça en ferait un sujet politique et peut-être plus global, rapport à la vieillesse, rapport au corps, rapport à la maladie ou au vieillissement qui des fois se croisent. Et finalement, rapport aux normes, quoi. Aux normes du corps, de la validité du corps, de la productivité de l'individu, parce qu'il y a ça aussi, par exemple, comme... dans le sujet périménopause, ménopause, des fois ça peut faire des atteintes dans le confort du quotidien, de systématiquement mal dormir pendant longtemps, d'être fatigué tout le temps, d'avoir ces humeurs qui font du yo-yo socialement, des fois ça fait de la merde, quoi. Et de faire un sujet politique de ça, ça nous permettrait de le gérer ensemble, puisque en plus, a priori, ça va arriver à beaucoup d'entre nous quand même. Et aussi, c'est une porte d'entrée pour faire ensemble. Malgré les difficultés du quotidien, c'est pas que la périménopause qui amène des difficultés dans la vie quotidienne. Il y a plein de raisons et peut-être le voir par cet angle-là, ça permettrait de traiter pas juste les difficultés liées à la périménopause, mais un truc plus global de comment on se considère ou on prend soin les uns les unes des autres dans des étapes de vie où on peut pas être aussi effective, aussi productive, aussi efficace, quelle qu'en soit la raison, qu'on a pu l'être à un autre moment de notre vie, quoi. Et qu'on apprenne ensemble à gérer des trucs comme ça, je trouverais ça super intéressant. Je ne sais pas du tout comment on peut s'attaquer à cette montagne-là. Mais peut-être c'est en parlant de nos choses qui nous freinent, quoi.
Parce que, par exemple, dans le quotidien, quand ça arrive ou quoi, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu visibilises ? Quand toi, tu as un coup de sang, pour le dire comme ça, ta truc, ta fatigue, est-ce que tu dis, bon, c'est la ménopause ? Enfin, est-ce qu'il y a un...
Bah, à un moment, j'ai essayé de dire qu'il se passait ça pour moi, autour de moi, mais j'ai pas eu envie de le répéter à chaque fois qu'il se passait quelque chose, quoi. J'ai eu envie de dire à mes proches, je suis dans cette phase, et dans cette phase, il y a le yo-yo émotionnel, il y a ça. Mais après, le redire à chaque fois, ça m'a, l'idée me pèse, quoi. J'ai aussi envie que ça prenne pas une place de malade et tout. Et je sais pas si c'est la bonne stratégie, mais en fait, j'ai fait comme ça, quoi. Mais à des moments, ça m'est arrivé de m'excuser pour des emportements, des trucs comme ça. Et j'ai pas, je veux dire, il y a mille raisons de s'emporter, du coup... J'ai pas dit, oh, excuse-moi, j'ai ménopause, tu vois.
T'as pas sorti la carte.
J'ai pas sorti la carte. Mais si j'ai un coup de chaud, si j'ai une bouffée de chaleur, je vais dire, oh, la ménopause, c'est chiant. Ou, je vais dire une remarque qui va signifier que c'est ça, quoi. Quoique de moins en moins, parce que maintenant, ça fait des années que j'ai des coups de chaud. Donc, des fois, je dis juste, j'ai un coup de chaud, quoi. Ça fait partie de, comment dire, les gens qui passent du temps régulièrement avec moi, ils sont habitués. Mais je dirais quand même que depuis une bonne année, c'est mieux. Je garde les bouffées de chaleur, mais pas ce genre de bouffée de chaleur qui en plus fait une montée d'énervement, qui en plus peut faire de l'angoisse et tout. J'ai juste le chaud. Donc ça, je trouve que c'est déjà vachement plus gérable. Et j'ai pu les sauts d'humeur de ouf à 3 secondes d'intervalle. Je m'en sors vraiment pas mal.
Et au-delà d'en parler avec des proches, le médecin ou quoi, toi, t'as eu envie de faire des recherches, de chercher des trucs, ou pas du tout?
Ouais, si, j'ai eu envie de regarder ce qui se disait sur le sujet. Par exemple, j'ai cherché des documentaires, j'ai regardé un truc nul sur Arte, un autre truc un peu plus intéressant. Je me rappelle plus les références, bien sûr.
Du coup, on trouve quand même des ressources, quoi.
Ouais, on trouve quand même des ressources. Et aussi, j'ai relu un bouquin de naturopathie, Rinanissim, qui avait fait ça sur la ménopause. Ouais, j'ai trouvé 2-3 ressources pas normopathes, quoi. Enfin, plus proches de moi, quoi.
Là, quand tu dis le documentaire chiant, c'est que c'était justement normopathe?
Ouais, tout le monde souffrait de ouf. Ouais, c'était fataliste, quoi. Et moi, je sais pas. C'était pas soutenant, quoi. C'est oh merde, t'es. Ça envoyait le message, oh merde, t'es dans la galère, là. Et moi, j'ai pas envie de regarder des choses comme ça, c'est plombant. J'avoue que le mieux, les meilleurs. Enfin, les discussions qui m'ont le plus apporté et tout, c'est avec les copines. Les copines qui traversaient les mêmes choses, quoi. Et qui aussi s'en foutaient de plus avoir leurs règles, s'en foutaient de plus être fertile, s'en foutaient d'être bonne ou pas pour le monde normal. Il y avait quand même des critères qui sont pas faciles à retrouver ailleurs que dans. Nos réseaux proches, quoi, je dirais. Qu'est-ce que j'aurais envie de rajouter Ça peut être chiant, mais c'est pas grave. C'est pas une maladie. Tous les symptômes, ils sont traitables. Tout est améliorable. La fatalité n'existe pas. Et on peut, dès qu'on a un petit peu l'énergie de le faire et tout, chercher des petites recettes qui nous font du bien et prêter attention à ce qui nous fait du bien et lui donner de, l'importance à ça. Voilà, ce serait mon petit tips. Et bien sûr, force et courage à tous.
Attention ladies aged 35-50. This is your chief admin of Menopause and the brand ambassador of Menopause. Menopause is not madness, it's a software update. Menopause, same woman, different setting.
Sister, now every time you dey tired, Your feet feels like fire. Today you are feeling good, tomorrow you are not. Anxiety, dry skin, menstrual flow is abnormal. No fear, no be your village people, they come for you. Like young girls go through puberty, older ladies go through menopause. Oh, 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 oh. Watching the worry, you na menopause. Itchy skin,
menopause.
Forgetfulness,
menopause.
Loss of libido,
menopause. Oh, oh.
Flashes.
Menopause, oh, 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 menopause.
From age 35,
menopause.
40,
menopause.
45,
menopause.
15, oh, nade baba, menopause.
Menopause, menopause. Menopause, oh, 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 menopause. Menopause, menopause.
Brother, your girl is not going crazy. She's passing through some phases. Your support and understanding is highly needed. Sometimes she can blame you for nothing. She go define waiting no loss. No fear, no be her village people, they come for her. Like young girls go through puberty, older ladies go through menopause.
Oh, 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 oh.
But in the worry, her na menopause.
Bone
inflammation.
Menopause.
Sleeplessness.
Menopause.
Lack of interest.
Menopause.
Oh,
menopause, oh, 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 menopause.
From age 35,
menopause.
40,
menopause.
45,
menopause.
15, a day old.
Et voilà, on est donc toujours dans Dégenré avec cette émission autour de la ménopause, si vous nous rejoignez, sur Radio Campus Grenoble. Et donc merci à notre camarade pour avoir partagé tout ce qu'elle a partagé dans cette première interview. Et là, ça a fini avec le morceau Ménopause de Akoti, donc c'est de l'afro-pop de cette musicienne kenyane et c'est même une presque nouveauté puisque c'est sorti fin mars 2026. Voilà, ça dit quoi sur son petit site? Que la ménopause et préménopause est une tempête silencieuse que beaucoup de personnes traversent sans même s'en rendre compte. Les sautes d'humeur, l'épuisement, les bouleversements émotionnels, mais ce n'est pas de la folie, c'est une transformation. Mais que dit effectivement, c'est plutôt le silence qui fait que ça peut nuire aux relations, désorienter les proches, laisser les personnes se sentir seules. Voilà, c'est pourquoi Akoti essaye de sensibiliser son public en partageant des témoignages et en ayant fait cette chanson. Voilà, et ça terminait par « Soutenons-nous les uns les unes les autres ». C'est bien.
Eh bien, merci pour cette découverte de nouveautés. En parlant de nouveautés, bah, peut-être je peux dire qu'on avait déjà fait une émission à Dégenrer sur la ménopause, mais c'était en 2009, donc c'était il y a 17 ans. Et à cette époque-là, nos camarades disaient « Eh bien, nous ne sommes pas concernés. » Comme quoi, en 17 ans, des choses peuvent changer.
Et le ça temps avance, quoi.
Ouais, puis ça vaut toujours le coup de refaire des émissions sur des sujets qu'on a déjà faits. Et notamment quand c'est des sujets qui sont un peu oubliés, pas trop vus, peu discutés. En tout cas, c'est notre intention avec cette émission sur la ménopause. Voilà. Alors, moi, ça a été l'occasion de reprendre contact avec une camarade ménopausée et de pouvoir échanger des nouvelles et des questions. Alors, on vous laisse avec cette interview.
Bonjour. Moi, c'est Florence. J'ai 40 ans et je suis sous ménopause chimique suite à un cancer du sein depuis bientôt 4 ans. Comme j'avais un cancer qui était hormonodépendant, là, ça veut dire qu'il se nourrissait d'hormones, je prends un traitement qui bloque mes hormones. Je suis ménopausée, mais c'est temporaire, c'est dû au traitement que je prends. Selon le type de cancer qu'on a, on peut avoir une hormonothérapie à simple blocage ou une hormonothérapie à double blocage. Bon, je sais pas si je donne les détails, moi j'ai eu besoin de tout comprendre. Le double blocage, ça fait que tu produis plus du tout d'hormones, enfin d'oestrogène et de progestérone, ça bloque tout le cycle. Du coup, l'injection, ça a bloqué au niveau du cerveau, qui envoie le, le signal de l'ovulation qui fait que le cycle se lance. Et le cachet que je prenais avec, c'était de l'aromazine qui bloquait plutôt la production d'oestrogènes plutôt au niveau du gras. Voilà, parce que les oestrogènes se produisent. Il faut du gras pour faire des oestrogènes. Et là, du coup, j'ai passé au tamoxifène, qui est un plus classique, du coup, pour le simple blocage, qui, lui, juste ralentit tout. Je peux tout. Ma passion scientifique, c'est un peu tassée. J'ai pas tout regardé, qu'est-ce qu'il faisait comment, mais celui-là. I can sleep. Moi, j'avais pas fait de groupe de parole que de cancéreux. C'est un de mes fantasmes d'en animer un. Mais par contre, j'ai fait du sport avec. C'était beaucoup, beaucoup d'autres femmes qui avaient aussi eu des cancers du sein. Et c'est là qu'on en parlait beaucoup. C'était après le cours de pilates ou de yoga de la Ligue contre le cancer. Puis après, avec les camarades qui sont venus rejoindre le club du cancer. Après, je pense que c'est quand même un de nos sujets de discussion. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à demander à mon gynéco si je pouvais arrêter ou ralentir, pas arrêter l'hormonothérapie, mais la baisser. Au début, il était plutôt pas d'accord. Bon. En tout cas, il m'a encouragé à continuer en me disant, je sais que c'est dur, c'est vraiment le moment où vous êtes seul. Déjà, l'entourage est moins là, le corps médical est beaucoup moins présent. Vous êtes un peu seul avec vos symptômes et ils sont pas marrants, mais ça vaut le coup, quoi. Et je pense que c'est là où quand même les pères, ça fait du bien, quoi. De pouvoir un peu causer de tout ça sans que les gens nous regardent avec des grands yeux. Enfin, moi, je pense qu'on m'a dit « Ah bon, t'es ménopausée ?» à peu près 450 fois, quoi. Et puis, ça fait partie des... effectivement, de la phase du traitement qui se voit pas et dont personne n'a envie d'entendre parler. Les gens, ils sont contents que je sois vivante, du coup, c'est le principal. Mais le reste, là, bon, l'hormonothérapie, ces petites douleurs, c'est bon. Enfin, il y a un truc qui est un peu... qui est difficile à voir, tout simplement, aussi, et à entendre ou à accepter que, ben non, c'est pas fini, je suis toujours... sous traitement, en fait, même si maintenant j'ai des cheveux et que je marche. Bon, voilà, je pense que ça vient jouer sur les peurs aussi, quoi. Moi, j'ai rejoint, participé au début de la création d'un groupe de malades chroniques et longue durée, aussi pour partager ça, le fait de vivre avec tout ça, c'est quand même un sacré truc. Et que du coup, ça fait un peu plus communauté de ce côté-là. Parce que, ouais, les symptômes, et ben, de la fatigue généralisée. On se rend bien compte un peu, même les camarades malades chroniques, à quel point c'est difficile à imaginer quand on l'a pas vécu, ce truc de marcher trop longtemps et de juste à un moment dire « Mes jambes ne vont pas me tenir, en fait, là. J'ai marché plus de 30 minutes. » C'est pas possible, mes pieds sont en feu, j'ai peur de tomber, quoi. Il faut que je rentre un peu vite. Et des douleurs articulaires, pas mal. Des douleurs un peu partout qui se promènent, tu sais, pas toujours quand, comment, pourquoi. Et des bouffées de chaleur, mais alors pas... je pense que j'ai eu des bouffées de chaleur, moi, moins pire que des potes avec une ménopause naturelle. Mais quand même, ce truc d'avoir chaud systématiquement après avoir fait un effort, avoir mangé, bu un verre d'alcool, ça c'est... et en m'endormant aussi. Et ce truc-là de me réveiller la nuit, et je me réveille la nuit parce que j'ai chaud. Du coup, tu développes des stratégies. Je déteste quand les gens font les lits bien au carré. T'es là, genre, non, mais moi, il faut que je sorte mes pieds, sinon... Sinon, j'ai vraiment trop chaud. Mon principal outil de régulation a été de dormir les pieds en dehors du lit. Moi, je sais pas si être ménopausée, ça fait partie de mon identité en soi. J'ai l'impression que c'est un bout de mon identité de cancéreuse, plutôt. Et alors, moi, je suis pas du tout attachée à mes règles. Je pense qu'avant d'avoir un cancer, j'avais des règles hyper douloureuses, probablement de l'endométriose. Du coup, ça me manque pas du tout de ne pas les avoir. Ça vient pas du tout jouer sur comment je vis mon genre, quoi. Enfin, ce qui peut être le cas pour d'autres gens, je pense. Mais là, plutôt même, j'avoue que si je trouve une solution pour que on m'enlève l'utérus, je m'en foutrais un peu. Voilà. Ouais, ça me fait aussi pas un truc d'appartenance hyper fort parce que ça va s'arrêter, puis à un moment, je vais arrêter ce traitement, puis je vais re-avoir des cycles, et après, j'aurai une ménopause naturelle plus tard. Enfin, du coup, il y a comme un truc qui est un peu temporaire, alors qu'en fait, je pense que mon identité de cancéreuse, elle est beaucoup moins temporaire. Elle l'est pas, je veux dire, il y aura toujours un truc de... C'est arrivé, ça fait partie de ma vie, et ça peut revenir n'importe quand, du coup. Voilà, plutôt, la ménopause était un effet... secondaire très très long. L'accessoire visible, chic de la ménopause, c'est l'éventail. L'accessoire que l'on cache un peu plus, c'est le lubrifiant. Et peut-être la crème hydratante pour les pieds. À ne pas confondre les deux.
Encore une belle interview de Florence qui a l'occasion de nous faire rire en parlant de choses somme toute complexes. Mais c'est pour ça qu'on aime nos camarades féministes. Et en interviewant, elle nous a partagé des ressources et notamment un mémoire. Alors on va la laisser elle-même le présenter.
Du coup, ce mémoire, c'est un mémoire de fin de formation de conseillère conjugale et familiale qui a été soutenu au planning 13 de Marseille, donc, et que moi j'ai lu parce que j'étais dans le jury et que j'ai trouvé très juste, très beau, qui aborde la ménopause sous plusieurs angles et en tout cas avec aussi une petite pointe de colère sur tout ce qu'on nous dit pas. Et qu'à l'époque, moi j'étais déjà sous traitement et je crois que il m'a ému au-delà de son aspect aussi informatif. Et oui, et ben c'est ça, j'ai retrouvé un passage qui m'a touchée dans ce mémoire. C'est un truc... À un moment, elle dit « Au même titre que l'adolescence, l'étape de la ménopause va amener un travail psychique d'appropriation d'un nouveau corps. » Et j'ai trouvé ça très juste.
En effet, c'est très juste. Donc moi, j'ai lu ce mémoire. Il fait une soixantaine de pages. Il a été écrit par Farida Belaïd entre 2022 et 2023 pour son mémoire de fin d'études de CCF. Donc moi, c'était la première fois que je lisais un mémoire de CCF et j'ai trouvé ça extrêmement agréable à lire. Donc ça commence par une introduction où c'est possible de placer ses propres enjeux. Et du coup, elle raconte que c'est aussi en lien avec des problématiques à elle de ménopause qu'elle s'est mise à produire ce mémoire. Donc il y a cet enjeu-là, là, de comment se positionne la personne qui écrit et comment est-ce qu'elle se projette dans une meilleure pratique d'accompagnement en tant que conseillère familiale et conjugale. Du coup, qu'est-ce qui peut être mis en place par rapport à ce sujet qui est tabou et du coup, comment faire que les personnes qui consultent puissent avoir un accueil qui leur soit bienveillant, utile et qui leur permette de faire les choix avec le moins de risques pour elles. Donc c'est un mémoire qui se découpe en plusieurs parties. On a d'abord un enjeu, un peu ce dont tu parlais dans ton introduction, Poche, de la question de comment en fait notre compréhension de la ménopause et donc même de l'impact et des symptômes sur notre vie, parce que des fois, notre compréhension, elle a des enjeux sur comment est-ce qu'on se sent dans notre corps, sans dire quand on veut ou on peut, mais du coup, comment est-ce qu'on peut avoir une approche à la fois historique et culturelle, se dire que les enjeux de regarder les hormones, c'est quelque chose de plutôt récent, ça date des années 30, que dans d'autres bassins culturels, il y a d'autres manières de penser cette transformation de la ménopause, et qu'est-ce que ça permet ensuite. Elle rappelle aussi qu'il y a des enjeux en lien avec comment est-ce qu'on se nourrit et que, par exemple, c'est assez récent qu'il y ait l'industrie pharmaceutique qui se positionne sur l'hormonothérapie de ménopause en Asie. Parce que jusque-là, en Asie, il y avait très peu de symptômes en lien avec la ménopause et que du coup, ça a à voir avec notamment une occidentalisation de la nourriture. En tout cas, c'est une des hypothèses qui est ramenée dans le livre dont tu avais parlé, Poche.
De la sociologue.
De la sociologue, oui, qui bosse pour le CNRS. Mmh. Donc, elle fait un travail sur les injonctions à la maternité et à la jeunesse. Comment est-ce que les hommes cis passent aussi par des enjeux de pause, qu'on va appeler l'andropause, mais qui est beaucoup moins recherchée et beaucoup moins nommée, mais qui peut avoir des symptômes qui sont similaires. Du coup, à la fois, comme on l'a dit en introduction, la ménopause est quelque chose qui est peu recherché, peu dit, mais son parallèle chez les M6 ne l'est pas non plus. Ça, c'était assez intéressant de regarder ça. Et elle revient sur ces enjeux culturels qu'on a déjà nommés, mais qu'on va renommer, que les corps vieillissants, qu'ils soient lus comme féminins ou masculins, ne sont pas vus de la même manière. Elle revient, puisque c'est un mémoire de CCF, sur les enjeux de sexualité et sur le fait que les personnes ménopausées peuvent avoir une sexualité qui est plus à risque parce qu'elles sont moins cibles, en fait, parce qu'on imagine moins des personnes de entre 45 et 60 ans ayant une vie sexuelle. Elles sont moins les cibles des campagnes de prévention sur les IST. Et encore sur cet enjeu entre la contraception et les IST. C'est dur de résumer l'entièreté d'un mémoire de 60 pages, il est vraiment agréable à lire et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en ressources pour que vous puissiez lire, il est bien écrit, il est comme l'a dit Florence pointu et on sent, même si c'est un travail de recherche avec de la donnée, la colère sous-jacente et en fait ça fait plaisir de lire des choses comme ça. Et peut-être une des choses qui est abordée dans ce mémoire, c'est quelque chose auquel tu as pensé aussi, Poche. C'est un groupe qui existait à Marseille, je ne sais pas si il existe encore, qui s'appelle Ménopause Rebelle et qui est un groupe de personnes ménopausées. Tu veux nous en dire un mot ?
Eh bien oui, effectivement, il était évoqué dans le mémoire et d'autres personnes me l'ont évoqué aussi. Du coup, Ménopause Rebelle, c'est un collectif qui a été monté en 2016. Effectivement, je suis pas sûre qu'il soit encore existant aujourd'hui. Du coup, monté à Marseille, qui s'appelle Ménopause Rebelle. Et en tout cas, c'était pour se retrouver tous les mois, pour parler de la ménopause, des doutes, des expériences, leurs techniques, etc. Aussi pour dédramatiser, se donner de la force et tout. Et effectivement, avec une approche qui se voulait intersectionnelle, puisque l'idée, c'était d'interroger un panel plus large d'oppression et de discrimination subie, en revalorisant le corps vieillissant, justement, comme tu le disais aussi, prenant un plaisir et un désir libéré des normes patriarcales, hétérocentrées et capitalistes. Et voilà, pour vous en donner un petit aperçu, on a trouvé un petit docu sonore qui faisait partie d'une web-série de France 3 PACA qui est sortie en 2021. Et ça s'appelait « J'irai crier sur vos murs, ménopause rebelle, vieille, libre et alors ». Du coup, on a décidé de vous le passer. Du coup, on les entend préparer. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire surtout, c'est qu'elles ont décidé de visibiliser. Du coup, pour que la parole soit visible, un peu partout dans les rues, elles font des pochoirs, des tags, elles ont travaillé à une brochure. L'idée, c'était d'informer et de rendre visible, quoi. Un peu street art et tout.
oui, rendre visible les choses qui ne le sont pas trop.
Ouais.
Du coup, on s'écoute. J'irai crier sur vos murs ménopause, rebelle, vieille, libre et alors sur le 90.8.
Et effectivement, c'est à cette occasion, vu qu'elles ont été suivies dans la rue en train de faire ça, du coup, il y a aussi un micro-trottoir avec des gens qui réagissent et tout.
Celle-là, on la prend, hein. Vieille et on
rejoue. Oui, oui, claro. Et les deux ménopause rebelles.
Joyeuse, alors. Fais voir celle-là, Lisa.
Voilà, on fait le rebelle.
Ben, c'est deux mots qui vont pas ensemble. Et puis, c'est vraiment agacer. Et puis, c'est vraiment dire, ben non, vous croyez qu'en fait, effectivement, ça y est, on va se calmer à 50 ans. Ben non, en fait, on va pas être forcément plus calme à 50 ans. On va continuer à être rebelle. C'est vraiment deux mots qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Et du coup, c'est jubilatoire.
On reprend le stigmate de vieille, puisqu'on nous traite de vieille, puisqu'on n'est plus bonne sur le marché de la bonne meuf, comme dit Despentes. Et en même temps, on joue de ça en disant vieille est libre, vieille est punk, vieille. Et tout. Et le ménopause rebelle, c'est ça.
Fais voir celle-là, Lisa.
Libre. Vieille est. Après aussi, punk aussi.
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu cette volonté d'aller le dire dans la rue, en fait ?
Eh ben, je pense que c'est l'absence, justement, de la reconnaissance des femmes ménopausées rebelles comme étant des femmes qui ont envie de vivre, qui ont envie de dire des choses, qui ne sont pas à moitié déjà vieilles, bonnes à être mamie, à faire des confitures. Donc je crois qu'il y a vraiment eu cette envie de sortir là par rapport aux images médiatisées. Hein.
Et aussi prendre l'espace public, parce que l'histoire des tags, c'est prendre l'espace public, c'est aussi
faire un truc qui est effectivement pas légal, mais qui est comment on se rend visible dans cet espace qui est de moins en moins public, enfin on a de moins en moins de liberté possible. Et l'histoire du tag, pour moi, c'est que bah, il se passe quelque chose dans la tronche de quelqu'un qui voit un truc. Alors ça l'énerve, ça le dérange, ça le surprend, ça le fait vibrer. Ça... En tout cas, ça interroge l'imaginaire. Et moi, je trouve ça super, super intéressant.
Je sais pas c'est quoi la ménopause. Personne n'en parle. C'est la honte. Le bossy s'en va les yeux. Je suis même allé voir sur Doctissimo. Hein, Doc ?
Ostéoporose, ballonnement intestinaux, effet de chaleur et baisse de libido. Risque d'infarctus, douleurs articulaires, troubles du sommeil et troubles urinaires.
C'est quoi ? C'est une apologie de la vieillesse ? De la personne mûre ? De la personne âgée ? Ménopause rebelle. Je pense qu'il y a une rébellion de la femme, de la quinca.
Derrière ça, il y a aussi, c'est quoi l'image d'une femme ménopausée?
Ah, une femme foutue. C'est pris ce que je suis en train de dire. Non. Oui, dans la société, l'image de la femme ménopausée, effectivement, est très péjorative, alors que je pense que ben, de nos jours, la femme ménopausée est une femme tout à fait encore en âge de... d'être une femme.
Je pense qu'on a l'image d'une femme qui a fait son temps, en fait. On est surtout dans une société qui laisse place à un culte du corps ou d'une jeunesse et qu'arrivée à un certain âge, il y a comme un rejet, comme si elles étaient, c'est horrible, mais comme si elles étaient périmées, si je peux dire.
Mais il faut arriver, attends, plus personne ne veut vieillir, ou tu es vieux ou tu es mort. Vous avez d'autres solutions?
Ménopause.
Attends, déjà, voilà, il n'y a plus rien à faire, tu vis tranquille. Ou si tu avais bouffé de chaleur, un peu. Moi, j'en ai pas eu, hein, m'avait filé une crème, nickel.
Pourquoi on n'en parle pas?
Parce que c'est essentiellement des hommes qui sont aux commandes des informations et qu'ils n'ont rien à foutre des problèmes des femmes. Tu le dis assez grossièrement, mais enfin, c'est comme ça que ça se passe.
Les bonnes femmes, c'est parce qu'on les emmerde, parce qu'elles sont grosses, parce qu'il faut être maigre, parce que la mode, parce que les tendances, les... Attendez, il faudrait qu'on nous lâche un peu aussi, hein.
Non, mais c'est bien, c'est sympa. Mais collez-le sur du papier, ça fait son temps, ça passe comme nous, comme tout. Le vent, la main, des fois les gens. Et des fois les gens ne le font pas, l'arrachent pas d'air. Là, il est resté un truc ici, longtemps. Tu es forte. J'ai trouvé ça au papier. Super. J'ai trouvé ça génial.
Ah, vieille et forte, c'est pas mal.
Ah, c'est pas mal. Hein? Franchement,
vous nous avez trouvé un slogan super.
J'en ai plein, mais bon.
Bon, j'y colle.
On est là qu'on a école. Mesdames, bon courage. Bon,
merci.
Mais un papier, c'est mieux.
Au revoir.
Allez, vieille et forte pour finir.
Oui, parce que... Hein?
On investit l'espace public pour le rendre plus poétique, parce que pour moi, c'est aussi de la poésie urbaine.
La ménopause, c'est pas une maladie. La ménopause, tu viens.
Et vous êtes toujours dans l'émission de Dégenré sur... la ménopause qui n'est pas une maladie. Et moi, j'avais envie de dire que en préparant cette émission sur la ménopause, je me suis reconnue dans les chiffres qui étaient abordés dans le mémoire, qui est que, en fait, pour la plupart, les personnes qui ne sont pas en ménopause ou en périménopause, c'est-à-dire avant la ménopause qui est l'arrêt des règles, eh bien, on ne fait pas de recherche sur ça. C'est un sujet qu'on aborde peu. Et voilà, moi, ça m'a confrontée au fait de faire des recherches. Et donc, dans le mémoire, il y a aussi une explication là-dessus sur le rapport à l'âgisme et notamment le rapport au temps. Comment est-ce que ça modifie notre rapport au temps? Et c'est quelque chose que on trouve en travers de l'entièreté des interviews qu'on a eues. C'est qui parle de quoi, quand et qui ouvre un espace pour qu'on puisse parler de ce sujet tabou qu'est la ménopause.
Tout à fait. Et bien là, on va vous proposer un dernier petit bout d'interview d'une autre camarade. On revient vers vous après.
Bonjour, moi c'est Soaz, je vais sur mes 48 ans et je suis en périménopause. Alors, je crois que c'est ce qu'on appelait avant la préménopause. Alors péri, on ne sait pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait comme si ça tournait autour, tel un périphérique. mais on espère qu'à un moment ça s'arrête de tourner. Du coup, c'est le début un peu des symptômes de dérèglement hormonal de machin qui vont vers la fin des règles, quoi. Voilà ce que c'est pour moi. Donc, parfois, il y a un peu des symptômes, ce qui est mon cas. Des fois, il y en a beaucoup et puis des fois, il n'y en a pas.
Et comment t'as su que t'étais en périménopause ?
Bah, je crois que j'ai capté des trucs parce que j'avais lu le bouquin Ma Mamélis de Rina Nissim, et où elle explique un peu ces trucs de cycle-là, de qu'est-ce qui se passe au moment de la pré-périménopause. Notamment ce truc qu'il y a d'abord une hormone qui tombe, et puis du coup ça raccourcit le cycle, et puis après ça redevient normal et tout. Quand je le lisais, j'en étais là, moi je m'étais dit « Ah, c'est ça qui se passe, ok ». Et après, j'ai eu un peu des symptômes de trucs hormonaux que je voyais bien qui se passaient dans mon corps. À un moment, avant mes règles, pendant genre une dizaine de jours, j'ai eu le bonheur d'avoir des seins énormes. Mais la contrepartie, c'était que j'avais envie de crever. Donc, bon, finalement, j'ai eu mes règles. Tout s'est bien passé. J'ai retrouvé ma joie de vivre et mes petits nichons. Voilà, ça. Et puis, après, en discutant avec des copines, bon, de toute façon, j'avais l'âge, un peu la tranche d'âge là où c'est censé nous arriver. Et puis, j'avais des trucs de fatigue un peu... En plus des fatigues habituelles, on va dire, qui avaient l'air qui ressemblait un peu à ce que vivaient d'autres copines qui étaient aussi... en périménopause, d'après elle. Et ouais, je voyais que c'était vraiment une fatigue différente qui te couche, quoi. Tu dors, point. Enfin, moi, ça me faisait ça. Et puis après, avec un peu des syndromes prémenstruels que moi, j'ai jamais eu très vénère, mais que là, pouvait durer plus longtemps, être un peu plus vénère. Mais c'est différent chaque mois. Parce que quand j'ai eu mon expérience gros nichon, j'étais là, attends, si c'est 10 jours tous les mois, ça va quand même pas être fun. Et en fait, ça s'est jamais revenu, ou jamais à cette intensité-là. Et ça, c'était il y a genre 1 an et demi, 2 ans, quoi. Mais bon, à chaque fois, on a des petites surprises. Soit il se passe rien, soit il se passe un truc. En général, pas génial. Mais bon, en fait, moi, ça va parce qu'une fois qu'on sait ce qui nous arrive, je trouve que c'est plus gérable. Parce que je pense, comparé à des témoignages d'autres copines, moi, c'est pas pire. Et puis, en fait, c'est marrant parce que je retrouve des trucs... de quand j'étais jeune. En fait, quand j'étais jeune, j'étais très, très dispersée et très étourdie. Je pense que j'ai adopté des stratégies de compensation qui font que j'étais juste un peu dispersée, un peu étourdie. Et là, c'est revenu, mais énorme, quoi. Enfin, je perds des choses, j'oublie des trucs régulièrement. Mais ça va, j'arrive plutôt à en rire parce que c'est jamais très, très grave. Et j'ai l'impression qu'avec, il y a un espèce de truc de distance, comme si j'étais un peu flottante. Et comme je suis flottante, bah, je pense que j'oublie plus de trucs parce que je plane un peu. Mais aussi, c'est pas désagréable, quoi. Se sentir un peu détaché, un peu comme si on avait fumé un gros joint. Quelque chose comme ça. Du coup, ouais, non, je le vis pas trop mal plutôt. Mais bon, c'est que là, je suis dans un bon moment. Peut-être dans une semaine, j'aurai envie de tuer tout le monde et tout. Mais non, plutôt ça va. Après, je pense que j'ai des moments de montée de colère aussi qui peuvent être un peu drôles. Je m'en suis rendu compte quand j'ai hurlé sur des enfants, pour des très bonnes raisons. Mais que je me dis que normalement, je hurlerai pas sur des enfants où j'aurais pas envie de les frapper. Je les ai pas frappés, rassurez-vous. Bon, des trucs comme ça où ça monte vite, mais en même temps, le reste du temps, je suis plus détachée à la cool. Donc, il y a aussi des bons côtés, finalement. Ah oui, et aussi, je pense qu'il était rassurant parce que, en fait, comme j'ai Instagram sur mon téléphone, puisque voilà, et que, en fait, Instagram nous espionne, ils ont commencé à me mettre des trucs sur la périménopause. Et notamment des trucs de « Ah, beaucoup de personnes qui traversent la périménopause pensent qu'elles ont Alzheimer parce qu'elles oublient toujours des trucs. » Du coup, bon, bah, c'est quand même cool de savoir que plutôt, c'est pas Alzheimer, c'est juste que c'est la périménopause. Ça inquiète moins. Et puis, oui, aussi d'autres symptômes sur le sommeil qui change et des choses comme ça. Mais ouais, je trouve de savoir que c'est ça, en se disant que c'est un truc qui théoriquement va pas durer, en tout cas pas plus de 10 ans si tout va bien, même s'il y a des symptômes qui peuvent persister. Mais on se dit toujours que non, nous, ça ne va pas persister. Du coup, ça va plutôt, je suis tranquille, je crois. Aussi, ce qui va avec la périménopause, qui peut être pas facile à vivre, c'est que je pense pour beaucoup de personnes, il y a quand même le corps qui change. Et ce qui peut notamment aller avec des prises de poids. Moi, c'est un peu mon cas. Moi, je suis plutôt une personne avec un physique relativement normé. Je suis plutôt pas épaisse. Mais là, je vois que je prends du poids et que ma morphologie, elle change. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui me regarde beaucoup ou qui est plutôt je fuis les miroirs ou quoi. Donc, ça me gêne pas trop. Je vois que je rentre moins dans certaines fringues, ce qui me fait chier parce que je déteste choper des fringues. Mais voilà, à part ça, c'est pas très grave. Mais je pense pour d'autres personnes, ça peut aussi avoir un impact psychologique d'avoir un corps qui grossit vu qu'on est dans une société extrêmement grossophobe. Et voilà, changer, ça peut changer l'image de soi et son rapport au corps.
Du coup, est-ce que là, du coup, ça va ou est-ce que tu trouves des nouvelles stratégies ?
Je crois que moi, comme j'ai la chance de ne pas bosser aussi, il y a des trucs que je peux adapter au moment de fatigue. De réduire des trucs, bon, un peu faire péter ou pas tout remplir. Parce qu'il y a certains jours, je me lève, je vais faire un truc et tout va bien. Et puis en fait, au bout de deux heures, je suis là, mais mon Dieu, cette journée devrait être terminée. Et en fait, je dors. Et des fois, je fais des siestes, ce qui m'arrive absolument jamais normalement dans la vie. Et que là, en fait, je baille. Et il n'y a rien qui est possible du tout, quoi. Parce qu'il y a fonctionné, épuisé, que ça, je peux connaître par d'autres bouts. Mais là, ce truc de vraiment... Donc ouais, j'adapte un peu. Et puis bon, après, je pense que les collectifs dont je fais partie doivent être un peu patients, parce que encore plus que d'habitude, j'envoie des mails qui veulent rien dire, je me trompe dans les mots, je réponds pas aux bons mails. Bon, je fais un peu nimps, un peu plus que d'habitude. Mais aussi, ce qui est bien, parce que c'est l'occasion de parler dans mes collectifs que je suis en périménopause. Et ça, moi, j'ai vraiment envie d'en parler, que ce soit pas un tabou, parce que ça a un impact, quoi. Et on voit en général, quand on le dit, il y a toujours des personnes autour qui sont là, ah oui, bah oui, soit moi aussi, soit je suis passée par là. Et voilà, je trouve ça bien, même si des fois ça met notamment un jeune camarade gay en PLS qui était sous le choc, qui avait besoin d'un petit, une petite cellule psychologique après, mais sinon en tout cas bon, je trouve ça important de le faire. Bah ouais, j'en parle et puis on est pas mal à être à peu près dans le même truc quoi, d'âge assez proche. Du coup, oui, c'est un truc que je parle. Et puis, c'était déjà un truc qui était discuté un peu avant dans mon milieu, plus ou moins, avec des camarades plus âgés, notamment des copines qui avaient, pas à Grenoble, mais dans d'autres villes, monté des groupes de personnes qui traversaient ça, enfin, sur le vieillissement, et puis qui traversaient ça aussi, notamment en Ariège, à Marseille. Et du coup, le sujet, elle l'avait déjà un peu ouvert, il était déjà sur la table, donc après, c'était plus facile d'en parler. Mais en fait, ça prend tellement de place dans le quotidien de certaines camarades que... Ouais, enfin, le sujet, il est là de toute façon. Ce serait en faire un tabou, ce serait faire de la vie de ces copines-là un tabou et ça marcherait pas, quoi. Alors, moi, j'ai un concept que je pense qu'il faudrait qu'on développe. J'y ai pas encore trop réfléchi. On en avait parlé un peu avant cette interview, mais je pense qu'on devrait avoir une allocation spéciale pour personnes qui sont en périménopause, parce que ça coûte cher d'oublier de perdre pas mal de trucs, potentiellement, que souvent, on n'a pas forcément envie de prendre les thérapies hormonales qui, je pense, sont remboursées. Mais qui, voilà, ont quand même potentiellement des effets aussi un peu nocifs. Et que du coup, si on va plus au niveau de prendre des plantes ou d'autres types de traitements, ça coûte cher aussi. Et que même, je pense, pour des gens qui bossent potentiellement, il y a aussi un impact sur leur activité professionnelle et tout. Donc voilà, je pense que c'est un sujet à traiter. Je pense qu'on en parle plus. En fait, c'est tellement un bout de la vie qui est important, qui va arriver à plein de personnes, qui est incontournable avec des effets plus ou moins variés, et qu'on y soit préparé, que ce soit pensé dans la société, qu'il y ait une place pour ça, et ça semble un peu la moindre des choses. Et ce que je trouve cool, c'est que, je sais pas comment dire, la périménopause, ça fait que c'est un peu invalidant, et que pour des personnes très valides, qui n'avaient pas forcément aussi une réflexion sur le validisme, ça aide aussi à ça, quoi, à capter des limitations qu'on a pour des raisons de santé diverses ou variées. Et je trouve ça cool, des fois, là, quand on parle des choses qui sont moins taboues, que ce soit des problèmes de santé physique, mentale, périménopause ou quoi, c'est qu'on peut être créatif et proposer des trucs. Comme il y a une copine qui a organisé pendant longtemps des boomtos. Et en fait, ça marche pour plein de gens, parce que quand t'es attrapé par des trucs de fatigue, que le soir c'est compliqué ou quoi, de changer un peu de proposer une variété d'activités et d'horaires et d'essayer de toujours adapter. Mais cette question, bien sûr, elle dépasse largement la périménopause. C'est comment on essaye d'avoir des choses assez variées pour que, à un moment, tout le monde puisse en bénéficier le plus possible, être créatif avec ça. I'm seeing red, 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 red.
Am I untouchable? Am I untouchable? Am I untouchable? about to get rough. I'm on a roller coaster and I wanna get off. I've got a UTI, I've got no drive. Big surprise, my libido took a nosedive. Nice sweats, too tight for sex. Lie awake, think about killing my ex.
Et voilà, donc ça c'était le morceau I'm Seeing Red que donc Soaz a proposé et m'a conseillé, ce qui m'a donc aussi conseillé la série dont est tiré le morceau qui s'appelle Riot Woman. Du coup, c'est une série britannique écrite par Sally Wainwright. Donc la première phrase d'accroche c'est cinq femmes d'un certain âge. Je ne comprends pas cette formule, le certain âge, mais c'est pas grave, se réunissent pour créer un groupe de punk rock afin de participer à un concours de talent. Du coup, il ne faut pas s'arrêter à cette phrase d'accroche parce que loin d'être feel good, c'est une bonne série, mais dramatique plutôt. Alors bon, il y a un ou deux bémols du majoritairement blanc, il y en a une qui est dans la police, mais en même temps, comme on voit vraiment la violence policière systémique, bon, voilà, mais en tout cas, ça parle de ménopause. Et surtout, ça parle de ménopause, mais pas seulement. C'est-à-dire au milieu de violences sexistes et sexuelles, au milieu d'autres oppressions intersectionnelles, au milieu de tentatives de suicide, d'enfants et parents à charge. Du coup, c'est plutôt, c'est cool parce que ça monte la ménopause, mais comme étant prise dans les injonctions et violences faites tout au long de la vie, quoi, dans la société patriarcale. Du coup, elle est plutôt chouette. Et du coup, bah, effectivement, ça montre aussi que ça devient quand même plus visible, puisque je ne suis pas sûre qu'on avait une série où ça en parlait à ce point-là il y a encore 10 ans, quoi. Et donc, voilà. Et toutes les chansons principales ont été composées par Arx pour la série, dont I'm Seeing Red, qui est un duo queer assez chouchou, et qui font plein d'autres musiques. Du coup, je vous les conseille aussi. Et voilà, du coup, on termine là-dessus.
Bah oui. Moi, je voulais te remercier, Poche, de m'avoir amenée dans cette aventure. C'était super, je suis très contente. Et j'étais contente aussi que ce soit l'occasion de un peu tester la technique.
Oui, parce que là, je suis derrière la console, l'endroit où je ne suis jamais.
Et ça, c'est super. Du coup, on vous dit dans 15 jours.
Oui, voilà, tout à fait.
Notre dernière émission de la saison, je crois.
Oui.
Ouais.
On tease ou pas?
Vas-y.
Il y aura des créations sonores, estivales et tout. Des trucs comme ça.
Ouais, ouais, ça. Ouais, ouais, ouais.
Et prenez soin de vous et à bientôt.